Justine Brabant, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, chercheuse, spécialiste de la RDC et vous avez choisi de raconter l'histoire de ce mouvement, la Lucha, en bande dessinée. Pourquoi?
Parce que, bon, d'abord, l'histoire de ce mouvement, elle n'est pas très documentée, que ce soit en BD ou en livre. Il existe depuis 2012, on peut suivre épisodiquement ce qui se passe pour eux dans la presse et sur RFI. Mais il y a d'abord eu ce souhait vraiment de le documenter, parce que je pense que c'est une part d'histoire qui commence déjà à s'écrire au Congo avec la Lucha. Et la BD, c'était l'envie très forte d'avoir quelque chose d'accessible à des gens qui ne lisent pas forcément de gros livres, d'accessible y compris en ligne, parce qu'on a fait le choix de sortir cette BD à la fois sous un format papier, mais aussi sur Internet, où elle est diffusée épisode par épisode, sur le site de Jeune Afrique.
Et l'histoire de ces jeunes qui se sont donc constitués en mouvement citoyen à Goma d'abord en 2012, vous aviez envie de la raconter à qui?
Alors, à la fois à un public français, qui entend peut-être parler du Congo à travers les guerres à répétition depuis 25 ans, les questions humanitaire, comme celle des violences sexuelles en temps de guerre. À ce public-là, on a voulu aussi dire le Congo, c'est aussi une jeunesse, et une jeunesse qui a l'audace folle de choisir un combat non violent dans un pays qui ne connaît quasiment que la violence et que les guerres comme manière de protester depuis 25 ans. Donc c'était d'abord pour ce public-là, et puis ensuite c'est bien sûr pour les Congolais eux-mêmes, et c'est pour ça qu'on a aussi diffusé cette BD en ligne.
Alors votre bande dessinée, elle commence par cette réunion qu'ont les fondateurs de la Lucha en 2015, notamment Fred Boma, avec des responsables de mouvements citoyens du Burkina Faso, du Ballet Citoyen et du Sénégal, Yanamar. Pourquoi votre bande dessinée commence par ce moment-là?
D'abord parce que la Lucha, c'est certes un mouvement congolais fait par des Congolais pour des Congolais, mais c'est un mouvement qui s'inscrit dans une vague qui est quand même beaucoup plus large ces dernières années, qui est celui de ces jeunesses d'Afrique. Donc vous l'avez dit, au Sénégal, au Burkina Faso, qui ont choisi de faire de la politique en dehors des partis, en dehors des oppositions bien souvent tout aussi vieillissantes que les pouvoirs en place. Et puis deuxièmement, c'était quand même un tournant dans l'histoire de la répression pour la Lucha, parce qu'ils ont commencé à se mobiliser sur des sujets qui, a priori, ne faisaient pas trop peur aux autorités, même si c'est des sujets très importants et très graves, comme l'accès à l'eau, à l'éducation. Quand, en 2015, ils commencent à dire qu'ils réfléchissent aux manières d'éviter que Kabila fasse un troisième mandat, enfin, quand ils mettent un pied dans la politique au sens plus classique du terme, la répression qui s'abat sur eux est extrêmement forte. Et donc, à l'issue de cette conférence, Fred Boma et Yves Makwambala sont mis en prison pendant 18 mois et 15 jours pour des motifs presque toujours inconnus aujourd'hui. On les accuse vaguement d'ourdir un complot contre le gouvernement. Ils n'ont jamais eu de procès. Ils ont été libérés de manière provisoire, entre guillemets. Et voilà, ça a marqué un tournant.
Et depuis, ils ont gagné en reconnaissance internationale, puisque vous racontez aussi dans la bande dessinée ce moment où Fred Boma se rend aux États-Unis à la Commission des droits de l'homme au Congrès américain. Il reçoivent également le prix ambassadeur de conscience d'Amnesty International. On sent de votre part beaucoup d'admiration, d'estime en tout cas pour ces jeunes.
Oui, alors c'est particulier parce que bon, je suis journaliste, je ne suis pas là pour raconter de qui j'aime le travail, mais c'est un peu ce que je dis à la fin de cette BD, c'est que quand on a travaillé depuis à peu près 5 ans comme moi sur les groupes armés de l'Est du Congo, et quand on essaie de comprendre en particulier pourquoi ça représente un espèce de cycle qui s'auto-alimente tragiquement depuis 25 ans, quand vous passez votre temps à des gens qui vous disent « moi j'ai pris les armes parce que mon père lui-même avait été tué, parce que son grand-père avait pris les armes », il y a une sorte de désespoir, on va pas s'en cacher. Et quand finalement vous tombez sur des jeunes qui ont entre 25 et 30 ans, qui vous disent tout simplement « moi aussi j'ai été grandi dans cette guerre, mais j'essaye autre chose, je veux autre chose », qui disent « l'espoir c'est nous », dans un endroit où ces mots n'avaient plus de sens depuis si longtemps, et ben je peux pas ne pas dire que je ressens un espoir profond en fait en voyant ces gens-là. Alors oui, ils forcent l'admiration parce que ils ont su, de manière remarquable, complètement désarçonner les autorités congolaises et les forces à l'œuvre dans la répression des volontés de changement au Congo depuis ces dernières années.
Vous dites qu'ils ont désarçonné les autorités. Il y a cette planche très intéressante dans votre bande dessinée où l'un des fondateurs de la Lucha explique « Nous sommes indépendants de toute puissance étrangère, etc. » Mais les autorités entretiennent la confusion parce que, tout simplement, ils n'arrivent pas à imaginer que des jeunes, de leur propre initiative, puissent se révolter contre une situation injuste.
Oui, c'est effectivement un peu le seul levier, il me semble, que trouvent aujourd'hui les autorités congolaises pour faire face à un mouvement comme la Lucha, parce que les autorités congolaises, en tout cas la part des autorités congolaises qui est très active dans la répression des mouvements sociaux, sont habituées à faire comment pour combattre leur opposition ? Elles sont habituées à régner par l'arbitraire, par la corruption, par le clientélisme. Sauf que face à la Lucha, ils se sont retrouvés face à un énorme problème, puisque la Lucha n'a pas de chef à corrompre, n'a pas d'électeurs à contenter, et quand bien même ils sont mis en prison de manière arbitraire toutes les semaines ou tous les mois à cause de leurs manifestations, de leurs sit-in, de leurs actions pacifiques, ils ne désarment pas et ils n'ont jamais commis d'action violente. Donc on sent bien que c'est un peu comme du sable qui file entre les doigts des autorités, il leur échappe complètement. Donc le levier qu'ils utilisent, c'est de dire, ben voilà, c'est un mouvement qui est un complot ourdi de l'étranger, un mouvement derrière lequel il y aura une main noire et tout. Alors la Lucha explique bien et transparente sur l'argent qu'ils reçoivent ou pas. Donc pour leurs actions, ils s'autofinancent. De toute façon, la plupart du temps, ce sont du papier, des tracts. Et effectivement, quelques ONG internationales financent leurs déplacements pour, s'agissant de conférences, etc.
Amnesty International,
Amnesty
par exemple,
International, qui coédite cette BD avec La Boîte à Bulles, mon éditeur, finance par exemple la participation de Lucha à des conférences internationales. Donc la Lucha est très transparente là-dessus, mais c'est la seule accusation qui revient de la part des autorités, à tel point que les Luchéens se disent, bah, finalement, c'est bien la réflexion de gens qui eux-mêmes n'ont pas d'engagement ou d'espoir ou de passion suffisamment forte pour leur permettre de persévérer sans être manipulés par un pouvoir extérieur.
Un mot des illustrations, elles sont signées Annick Kamgang, dite Kam. C'est une jeune dessinatrice d'origine camerounaise qui est elle-même la fille d'un homme politique camerounais qui a dû s'exiler.
Tout à fait, et ben, Kam a choisi, après un parcours tout à fait haut dans un autre métier, de se tourner vers le dessin pour peut-être trouver une manière de s'engager aussi à sa manière. Pour elle, ça faisait beaucoup de sens aussi.
Justine Brabant, merci.